Господин полковник, я что-то нашу.
Минатак, вид, допишите
его. Рука, я дала один грамм. Усе так пуна полнима.
Elena et l'orchestre du monde des brouillards. Chapitre 1. Le village de Bussy.
Laissez-moi tranquille. Je ne peux pas vous aider maintenant, s'écrie Elena. Elle reprend ses esprits et regarde autour d'elle. Toute la classe de seconde du lycée Berlioz est comme figée autour d'elle dans une attitude d'étonnement et de consternation. Le premier à rire, c'est Marc, comme d'habitude. Ça y est, elle nous fait encore son délire. Vincent acquiesce d'un rire sarcastique. Lucier, Préau, ça suffit maintenant, dit Madame Fringer, respectable professeure de physique-chimie, qui est bien décidée à ne pas laisser s'installer le chaos dans sa classe. Quanta, qu'est-ce qui vous arrive encore? Elena est d'abord sans voix, tout à l'émotion de revenir à elle si brutalement. Et puis comment expliquer cet autre monde si étrange et ses hallucinations si réelles? Comment expliquer la prophétie, la forteresse noire, la croix de feu, le monde des brouillards et ces voix qui lui parlent et l'appellent au secours? La voix de la pierre détruira son pouvoir. La voix de la pierre détruira son pouvoir. Cette phrase qu'elle entend en boucle jour et nuit, d'où vient-elle? Comment expliquer ce qu'elle ne comprend pas elle-même? Ils ont raison. Je dois être folle, pense-t-elle. Depuis la disparition de ses parents, plus rien ne fonctionne normalement. La vie était si simple. Et voici que maintenant, tout est difficile. L'anxiété, ce mal invisible qui ronge de l'intérieur, a pris le contrôle de sa vie. Où sont partis mes parents? Pourquoi m'ont-ils laissé sans rien me dire? Quelle heure est-il arrivé? Comment vivre normalement comme avant, alors que tout a changé?
Mademoiselle Quanta, il me semble que je vous ai posé une question. Est-ce que vous m'entendez ou je dois utiliser le langage des signes?
Dit le professeur d'une voix traînante, en fermant les yeux pour mieux exprimer son mépris. Madame Fringer, du haut de son 1m58, n'est pas femme à se laisser interrompre sans contre-attaquer. Nerveuse, d'une forte personnalité, frustrée de n'avoir pas eu d'enfant à elle, ses élèves sont ses substituts adoptifs. Et puis attention, être professeur de physique-chimie, ce n'est pas n'importe quoi. Elena déteste le sentiment de se sentir rougir, tous ces regards braqués sur elle. L'occasion de se divertir et de se sentir supérieure ne se rate pas lorsqu'on est en meute.
Je suis désolée. Excusez-moi. Est-ce que je peux reprendre mon cours ou est-ce qu'il faut que je vous fasse sortir?
C'est bon, ça va aller.
Très bien. Donc, qui peut me dire l'impédance que je dois mettre en parallèle avec Z2 pour que le circuit soit accordé? Lucier, vous qui faites le malin.
Un peu plus tard, enfin, le cours se termine. Sohan s'approche d'Elena qui range ses affaires, le regard baissé. Ça va, Elena? C'est pas évident, tout ça.
J'en ai marre. Je me sens stupide quand ça m'arrive. Surtout au milieu d'un cours comme ça. C'est nul.
Tu t'en fous, c'est pas important.
Ce qui compte, c'est que nous on t'aime et qu'on te soutient.
Elena sent une brusque pulsion de larmes monter en elle. L'envie de se lâcher, de faire sortir toute cette frustration et cette angoisse qui bouillonne en elle. Les humiliations, sa différence. Et pourtant son amie la soutient toujours. Et quelle amie! Brillante, belle, pleine de mystère et de romantisme. Douée et pleine de facilité dans tous les domaines. Pourquoi une jeune fille aussi exceptionnelle serait-elle l'amie d'une folle qui crie en pleine classe? Mais pleurer devant la classe, pas question. Ça leur ferait trop plaisir. Ce serait trop facile.
Bon alors les filles, le show est fini? J'ai bien aimé l'épisode d'aujourd'hui, mais c'était un peu court. Vous voudriez pas nous refaire encore une scène ou deux?
Ça, c'est Kostia, Constantin Mirev. Le copain de Sohan et Elena, assez élancé, très intelligent et cultivé, bien que peu motivé par les études.
C'est sympa, t'es venu en pyjama aujourd'hui? C'est bien ce pantalon. Ça existe aussi pour une seule personne?
Lui balance Sohan. Plutôt cool le look de Kostia, Pantalon hyper baggy, t-shirt XXL flottant par-dessus, chaussures de sport lacées enlevées, un lecteur MP3 avec les écouteurs sur les oreilles, et malgré cela, des lunettes d'intellectuels qu'ils trahissent.
Bon, ok, je préfère pas répondre. Je vous attends dehors, à moins que vous ne restiez couché là.
C'est ça, allez, va dehors, ça nous fera des vacances,
dit Sohan, sans même le regarder. Dans la rue du village qui s'éloigne du lycée, Elena, Sohan et Kostia marchent ensemble. Elena rentre chez elle et Sohan va retrouver son cheval, Fire, qui est en pension dans un pré appartenant au père de Kostia.
Alors, pour savoir s'il y a du courant, tu mets ta langue dessus et si tu deviens tout bleu, c'est qu'il y en a, dit Kostia de bonne humeur.
Tu nous saoules avec tes histoires. T'es vraiment qu'un petit garçon finalement, attaque Sohan.
Kostia encaisse et se renferme, cassée.
Elena, comment va ton grand-père? Il tient le coup?
Ça va, mais il ne parle presque plus. Il est comme assommé par la disparition de mes parents. Je crois qu'il passe toute son énergie à appeler tout le monde pour relancer les recherches, à guetter leur retour, à épier le moindre bruit. Et du coup, il ne lui reste plus de force pour quoi que ce soit d'autre. Toujours pas de nouvelles du côté de la police, j'imagine. Non, ils ne comprennent pas. Il n'y a aucun signe, aucun indice d'enlèvement, aucun mobile. Ils se demandent s'ils ne sont pas tout simplement partis et si nous n'inventons pas toute cette histoire. Comme je suis mineure, ils n'auraient pas le droit de m'abandonner. Mais il y a mon grand-père. Donc ils auraient pu me confier à lui. Bon, évidemment, je parle du point de vue de la police, car je sais bien que c'est impossible. Je leur parlais encore la veille au soir. Je me couche, la nuit j'entends des cris, je descends, ils n'étaient plus là. Toutes leurs affaires sont restées. C'est impossible qu'ils soient partis volontairement de cette façon. Et puis c'est impossible qu'il soit parti tout court d'ailleurs, dit Elena avec frustration.
Je comprends totalement ce que tu ressens. Je connais bien tes parents et tout le monde les aime ici. Je suis sûre qu'ils ont eu un problème et qu'ils vont revenir. Tout ça a forcément une explication et ça va s'arranger. En tout cas, sois sûre que tes parents t'aiment et que c'est impossible qu'ils t'aient laissé volontairement de cette façon. Il faut que tu tiennes le coup jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui leur est arrivé. Je sais que c'est dur pour ton grand-père et toi. Et si on peut faire quoi que ce soit... T'es sympa, Sohan. Heureusement que t'es là.
Ouais, ben moi je suis là aussi et... Mais bon, apparemment je compte pour zéro, s'exclame Kostia.
Oh, le pauvre petit Constantin qu'on ne prend pas en considération,
se moque Sohan.
Merci, Kostia. Je sais que vous êtes tous les deux des amis. Je sais pas ce que je ferais sans vous.
Les nuages gris d'automne qui masquaient la lumière s'écartent momentanément. Et un rayon de soleil vient apporter une ponctuation d'espoir dans leur discussion. Le cours ne s'était fini qu'à 15h, et pourtant déjà la lumière semblait commencer à décliner. Novembre et ses jours qui raccourcissent, c'était une charge de plus à porter pour tous les êtres qui vivent avec la lumière. L'influence de la luminosité sur le moral et l'optimisme n'était plus à prouver. C'était la période qui mène aux mois obscurs, au froid de l'hiver, les feuilles qui meurent, les insectes qui disparaissent, les oiseaux migrateurs partis sans nous vers la chaleur. « Tant pis pour vous qui ne savez pas voler, ciao, on se revoit au printemps » devaient-ils se dire entre eux. L'hiver encore, avec la blancheur de la neige comme des milliards de petits miroirs réfléchissants, le silence des bruits qui s'amortissent, le froid sec, et les joues qui rougissent, c'était plus dynamisant. Les jours étaient courts mais lumineux. Et puis on savait que tout allait vers le printemps. On guettait sa venue en surveillant les branches pour saisir le premier bourgeon annonciateur. Mais l'automne, ses nuages, ses pluies, le vent et ses jours sans lumière étaient la saison la plus déprimante de l'année. Pendant les deux semaines qui s'étaient écoulées depuis la disparition des parents d'Elena, le ciel n'avait cessé d'être sombre et humide. Les journées commençaient dans le brouillard, puis un couvercle de nuages se refermait comme pour empêcher le jour de s'exprimer jusqu'à la venue de plus en plus précoce de la nuit. Souvent, celle-ci ne suffisait pas à calmer le vent qui continuait à balayer et bousculer tout sur son passage. Le chant glissando plaintif en gamme chromatique des toitures qui souffrent et les percussions des battants de fenêtres accordés avec les branches des arbres qui secouent leurs dernières feuilles, tout ceci était l'opéra dramatique que la nature jouait toute la nuit, infatigablement. La rue du village dans laquelle Soane, Elena et Constantin marchaient se prolongeait vers la gauche par un chemin en direction de la ferme de la famille de Constantin Mireff, où était en pension Fire, le cheval de Soane. Vers la droite, une autre rue conduisait à un chemin en bordure de forêt, au bout de laquelle, à l'extrémité du village, se trouvait la maison d'Elena Canta et sa famille. La ferme des Mireff était une grande bâtisse ancienne, avec des murs épais en pierre. L'intérieur, à l'opposé, était moderne. Ameublement fonctionnel, double vitrage, chauffage au sol par la géothermie, cuisine à l'américaine. Le bâtiment lui-même était organisé tout autour d'une cour centrale, le tout protégé d'une muraille extérieure qui datait des temps anciens, où les paysans y trouvaient refuge contre leurs attaquants armés. Bizarrement, cette ferme ne se trouvait pas en hauteur, mais dans le creux de deux collines. Par temps de pluie, l'eau ruisselante était détournée par de grands fossés qui rejoignaient un ruisseau où des canards et des oies avaient leur territoire farouchement protégé à coups de bec de toute intrusion humaine ou animale. Le seul intrus autorisé était un énorme dindon, Hector, qui faisait régulièrement sa ronde sur toute l'étendue du domaine. Tel un garde champêtre, il ne manquait pas de faire savoir à chacun s'il approuvait sa présence ou non. Sa victime de prédilection était le facteur, si celui-ci avait le malheur de ne pas être celui de d'habitude. Avec l'âge, Hector devenait de moins en moins tolérant avec tout ce qui n'était pas normal, selon les critères des dindons en général, et de lui en particulier. Celui qui ne connaît pas le dindon en colère peut fanfaronner, mais croyez-moi, celui qui a affaire à Hector le jour où il est de mauvaise humeur préfère changer de sujet et ne pas en parler. Les prés les plus proches étaient ceux dédiés aux pensions des chevaux. Ici, pas de box fermée, mais des abris spacieux orientés dos au vent dominant et des distributeurs de foin pour l'hiver. Les troupeaux de 5 à 6 chevaux étaient protégés contre les loups par de gros chiens de berger dont les niches étaient près des abris. Ces chiens avaient été placés là dès leur premier âge et étaient persuadés que les chevaux étaient leur famille. Peut-être pensaient-ils être eux-mêmes des chevaux un peu différents. Lorsque l'on se trouvait face au portail, le premier pré à gauche était celui de Fire, avec son complice Presto. Presto était un trotteur noir, aux pieds blancs, plus grand que Fire, et aussi bien plus calme. Très expérimenté, ce cheval était à l'aise dans toutes les situations. Il avait pour point commun avec Constantin, son cavalier, le courage et la volonté d'éviter tout effort ou dépense d'énergie inutile. C'était cela qui lui donnait une allure nonchalante et un pas lent qui trompait les observateurs sur sa vraie nature sportive. Presto pouvait soutenir un trot rapide ou un galop tranquille presque indéfiniment, mais uniquement à condition que cela soit motivant ou nécessaire. Si c'était pour faire la course avec Fire, par exemple, motivation suprême, on sentait son regard s'éveiller et la post-combustion s'allumer. L'accélération n'était pas extrême, mais la vitesse de pointe était phénoménale. Presto se métamorphosait en un véritable cheval de course et la forêt était son hippodrome. Presto et Fire étaient devenus de grands amis. Une grande complicité existait entre eux, une grande solidarité également. La personnalité de Fire était plus explosive. Cheval espagnol au sang chaud, il était la Ferrari des chevaux. Ses accélérations étaient d'une brutalité incroyable. Le cavalier était littéralement catapulté vers l'avant, écrasé contre le trousquin de sa selle. Les virages et les freinages étaient tout aussi radicaux. Celui qui montait sur Fire devait avoir le mental d'un pilote de chasse au combat, prêt à changer d'allure et de direction en une fraction de seconde. Sa vitesse de pointe approchait celle de Presto, mais sa petite taille l'empêchait de maintenir ce rythme aussi longtemps. Fire était un sprinter, pas un coureur de fond. Lorsqu'on était habitué à lui, tous les autres chevaux semblaient fades et sans vie.
Il fallait voir Soane et Fire dans la forêt, zigzagant entre les arbres au galop, tournant presque sur place, repartant en direction inverse, sautant les fossés, les branches et les troncs au sol, se jetant dans les flaques d'eau de l'automne, grimpant ou dévalant des pentes abruptes, en glissade, dans des éboulis de pierre, à travers des murs de branches et de feuillages opaques. Leur force était de se comprendre parfaitement. Soane ne croyait pas à la transmission de pensée. Mais c'était troublant de voir à quel point elle et ce cheval avaient les mêmes idées, les mêmes envies au même moment et partageaient les mêmes émotions. Par alternance, le bonheur de Soane était d'être une simple passagère, invitée par ce formidable cheval à une excursion dans son milieu sauvage d'origine. L'équitation n'était plus une activité humaine, mais un voyage de l'humain dans l'univers de la forêt. Soane se laissait guider et elle n'était pas déçue. Ils étaient en confiance et rapidement Fire l'emmenait dans des lieux incroyables de beauté et de vie. Fire galopait au milieu des chevreuils, les rattrapait, surprenait les oiseaux avant qu'ils ne s'envolent, coursait les sangliers et s'inventait des raccourcis à travers la végétation pour leur barrer la route. Soane allait rendre visite à Fire le plus souvent possible. Quand l'après-midi n'était pas trop avancé, comme aujourd'hui, elle en profitait pour faire un tour dans la forêt. Et parfois, Constantin l'accompagnait. Aujourd'hui, ils étaient ensemble pour aller les voir. Mais seule Soane voulait monter. Lorsqu'ils arrivaient devant le pré, les chevaux se comportaient comme dans la vraie vie. Ils partaient à l'autre bout du champ. Le mythe du cheval qui arrive au galop vers son maître avait été inventé par des romanciers qui prêtaient aux chevaux le comportement des chiens. Un cheval était toujours libre et indépendant. Il acceptait de vous emmener avec lui et de suivre vos instructions. Mais de là à se précipiter vers vous dans un vulgaire élan d'enthousiasme, c'était contraire à leur philosophie de liberté. Les chevaux et les humains n'étaient pas du même monde. L'un était prédateur, l'autre proie à l'instinct grégaire. Et s'ils pouvaient s'entendre et s'apprécier, cela n'empêchait pas qu'il était nécessaire de bien rappeler aux humains qu'ils ne savaient pas courir suffisamment vite pour les attraper, et que s'ils finissaient par venir, c'était uniquement parce qu'ils le voulaient bien. C'était un jeu assez drôle, où chacun allait de sa ruse. Celle de Soane était assez simple, un sac de carottes. Si Fire ne voulait pas venir, ce n'était pas grave, elle donnait les carottes aux autres chevaux du pré. Alors, généralement, il regardait quelques secondes en l'air, hésitant, puis arrivait dignement à petits pas, comme s'il passait justement par là, par hasard. Une fois une simple corde posée sur l'encolure, le contrat était passé entre eux, et leur collaboration était totale. Jusqu'au retour dans le pré, où dès son licol retiré, Fire faisait mine de s'échapper au trot d'un air de dire « Enfin libre, c'est pas trop tôt !» Après avoir bien pris soin de lui, l'avoir brossé, scellé et lui avoir donné des carottes, il prenait la direction de la forêt. Il n'était pas nécessaire pour Soane de décider s'il fallait galoper ou non. Bien sûr, il lui aurait suffi de le demander, mais c'était tellement plus joyeux de laisser Fire en décider. Et cela n'était pas long. La première ligne droite était comme une provocation pour lui. Et c'était parti. La Ferrari du monde équestre n'avait pas la patience de marcher très longtemps.